France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Une conversation littéraire consacrée aujourd'hui à l'insidieuse violence de l'urbanité. La ville comme lieu de la violence, de l'enfermement, de la douleur, de la différence et de la pauvreté. J'ai la joie de recevoir deux autrices, Virginie Barretot pour La Visite, récit paru aux éditions Inculte, et Esther Teillard pour le roman Carne aux éditions Pauvert. Bonjour Esther Teillard.
Bonjour.
Esther Teillard, les auditeurs de France Culture vous connaissent bien. Vous êtes entre autres chroniqueuse dans l'émission de notre confrère et néanmoins ami François Angelier, producteur de l'émission Mauvais Genre sur France Culture. La biographie de la quatrième de couverture de votre roman ajoute à cela que vous êtes originaire de Marseille, que vous écrivez dans Art Press et que Carne, paru en janvier aux éditions Pauvert, est votre premier roman. Et bonjour Virginie Barretot.
Bonjour.
Virginie Barretot, vous êtes dramaturge, metteuse en scène et romancière. On vous doit entre autres le fascinant roman « Se démarrait » paru en 2021. Et vous nous revenez en cette rentrée de janvier avec « La Visite », toujours aux éditions Inculte. « La Visite » porte le sous-titre « Récit ». Est-ce que ça pourrait être aussi un reportage littéraire ? Est-ce que la fiction en est absente, Virginie Barretot ?
Alors non, la fiction n'en est pas absente. En revanche, il est vrai que j'ai travaillé à partir du réel, à partir d'une rencontre avec une personne que j'appelle Francis dans ce récit. On s'est vu plusieurs fois et puis nous avons visité la maison de Nanterre, comme il est indiqué dans le livre. Donc tout ça part du réel. Il y a certaines choses qui ont été fictionnées, mais plutôt récupérées. Dans de la documentation et puis ajouter au récit comme si ça avait été vécu à ce moment-là, mais voilà, non, rien n'est inventé.
Donc on va rentrer dans les détails, mais cet endroit absolument incroyable existe vraiment, cette maison de Nanterre qui, quand on regarde sur la carte, en fait occupe une partie assez gigantesque de l'espace de la ville de Nanterre. Comment est-ce que vous avez eu, est-ce que c'est à travers Francis que vous avez découvert cet ensemble de bâtiments?
Oui, complètement. En fait, c'est à travers Francis qui donc est un homme qui dort devant le commissariat de Saint-Denis actuellement et qui pendant des années a dormi dans ce lieu à la maison de Nanterre. Moi, j'ignorais complètement cet endroit. J'ai rencontré, pour raconter un peu effectivement cette histoire-là, j'ai rencontré en fait Francis par une amie qui est juriste. Et puis un soir, on mange ensemble, elle me dit « Aujourd'hui, j'ai eu la visite d'un homme qui va aller dormir en prison. » Et elle me dit « Voilà, il a dormi des années à la maison de Nanterre. » Et elle connaissait, parce qu'elle avait été, elle, une histoire, en fait, avec un SDF qui avait, lui, fréquenté la maison de Nanterre, et c'était un lieu d'une grande, grande violence. Donc voilà, elle était surprise, elle, que cet homme-là aimait dormir à la maison de Nanterre, dorme devant un commissariat, etc. Et donc c'est par lui, en fait, c'est par cette rencontre, effectivement, que j'ai découvert ce lieu sur lequel je me suis rendue ensuite. J'y suis allée plusieurs fois, oui.
Et donc le récit s'ouvre sur l'attente de Francis devant la maison de Nanterre, justement, alors que vous avez rendez-vous avec Madame Boll, chargée de la culture à la maison de Nanterre. La démarche, expliquez-vous, est claire. Vous voulez tout simplement, écrire son histoire dans un livre. Voilà qui paraît simple et pourtant qui ne l'est pas vraiment, parce que cet homme a quand même plusieurs particularités, et cette maison aussi.
Oui, et puis c'est à la fois juste et pas tout à fait, parce que c'est quand même une histoire qui m'a obsédée, et je ne savais pas du tout pourquoi, et je pense qu'effectivement, le fait de me laisser guider par le fil de l'écriture, j'ai mené, ce récit-là comme une enquête, un peu, pour savoir aussi pourquoi est-ce que j'étais obsédée par cette histoire, pourquoi est-ce que je m'attachais à ce personnage, à ce lieu, et ce que ça pouvait me... ce que je pouvais y apprendre de moi, également. Voilà.
Mais Francis, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui ajoute à son originalité ce rapport avec ce lieu et sa passion pour l'histoire de ce lieu. Mais en soi, déjà, ce désir d'être enfermé, le fait qu'il dorme devant ce commissariat alors qu'il possède une maison par ailleurs, fait de lui en soi déjà un personnage assez unique.
Oui, oui, tout à fait. C'est en ça que j'ai été très intriguée, moi, par cette histoire. Pour revenir donc à cet ami qui me parle le premier soir de cet homme, c'est quelque chose qui m'est resté en tête. Et j'ai voulu le rencontrer, en fait, pour comprendre. Je comprenais pas, en fait, pourquoi est-ce qu'il dormait devant le commissariat de Saint-Denis, en effet, alors qu'il avait une maison, il a un travail également, il travaillait à la RATP. Donc tout est en place, en fait, pour vivre, entre guillemets, normalement. Et puis non, il va tous les soirs dormir devant le commissariat. Il a aimé dormir à la maison de Nanterre. C'était un endroit extrêmement violent, mais pour lui, c'est son mot. Il dit c'était féerique pour moi. Donc effectivement, j'ai été intriguée par cet homme et le fait de le rencontrer, d'aller sur place, de fouiner, enquêter, j'ai petit à petit un peu mieux compris en fait ce qui pouvait faire que ça, enfin comprendre sa démarche. En fait, j'ai besoin de comprendre sa démarche, ouais.
Mais Virginie Barreto, il y a quelque chose de passionnant chez Francis, c'est que on a l'impression qu'il se laisse observer quand même, que finalement il a presque conscience d'être un personnage un peu intéressant, en tout cas que ça le choque pas vraiment que vous vous intéressiez à lui, que vous l'accompagniez, que vous lui posiez des questions. Il a envie de communiquer un peu sur ses passions.
Alors il était même très très heureux de la première fois que je l'ai vu, en fait, je lui ai expliqué assez clairement que j'écrivais, que peut-être c'était en tous les cas une possibilité. J'avais peut-être envie d'écrire sur cette histoire-là, sur le rencontrer d'abord et puis voir. Mais voilà, qu'il y avait cette potentialité-là. Et lui, il en était très heureux. Il enregistre aussi toutes les rencontres qu'il fait parce qu'il a aussi fait pas mal de conférences avec notamment Toby Nathan, le psychiatre Toby Nathan. Et c'est quelqu'un qui a besoin en fait de s'exprimer sur son histoire, qui pense qu'il y a plein de gens en fait comme lui qui ont besoin de dormir en prison, qui ont besoin de dormir en cellule, qui ont besoin en tous les cas de trouver un endroit de répit dans le monde comme lui. Et donc il défend cette chose-là, c'est comme du militantisme un peu. Et dormir devant le commissariat, pour lui, ça relève de cette chose-là un petit peu. Donc il était très heureux en fait qu'on se rencontre et que j'ai envie d'écrire à partir de cette histoire-là, oui. Ouais.
Et alors cette maison de Nanterre, qui est un peu le personnage principal avec Francis du récit, c'était évidemment la première fois que vous en avez parlé ou déjà c'était quelque chose que vous connaissiez ou qui vous avait inspiré par ailleurs? Non, c'est Francis vraiment qui vous y amène.
Oui, 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 c'est lui qui m'y amène. En fait, donc assez vite, il me parle de on se voit une première fois à la RATP dans son bureau et puis il me parle de la maison de Nanterre. Donc il m'explique qu'il dort devant le commissariat, mais pendant des années, pendant à peu près 20 ans, il est allé dormir à la maison de Nanterre et notamment dans ce qu'on appelle le bloc 45, qui est le dernier bloc carcéral de la maison de Nanterre. La maison de Nanterre, en fait, au départ, c'est une prison avec un dépôt de mendicité qui s'est transformé peu à peu en maison de répression. Et puis aujourd'hui, c'est un hôpital avec hôpital psychiatrique, maternité, SAMU social, etc. C'est un lieu gigantesque, en effet, qui a fonctionné très longtemps en autonomie. Et donc lui, il allait dormir au bloc 45 et il m'a parlé, en fait, pendant une heure de ce lieu. Et donc, j'ai ensuite programmé une visite avec lui à la maison de Nanterre. Je voulais aller sur place pour visiter ce lieu et qu'il me raconte, en fait, sa maison, cet endroit-là.
Le préfet de police, par un arrêté des consuls de Messidor en 7, je pense bien que c'est en 7, pas 8, avait reçu la possibilité de recueillir dans les rues de la capitale et même du département de la Seine, puisqu'à l'époque ont été également créés des départements, les personnes vagabondes pour les conduire dans des lieux d'accueil. À cette époque, puisque le code pénal remonte également à la période napoléonienne, le délit de vagabondage était puni de prison. Le délit de vagabondage reste encore dans nos textes réprimé. Mais l'évolution de la justice et de l'administration pénitentiaire fait qu'à l'heure actuelle, on n'incarcère plus les vagabonds. Et donc, les choses ont beaucoup progressé. Et dans la suite logique de cette décision, il y a eu, par décret impérial de 1808, la création de dépôts de mendicité. Le texte demande que dans les différentes cités, et lieux de grands rassemblements, l'on crée des lieux d'accueil qui sont des dépôts de mendicité. Le mot dit bien ce qu'il veut dire. Un dépôt, c'est un endroit où les personnes sont conduites en quelque sorte de force. Et l'on avait demandé à ce que ces dépôts se créent dans de nombreuses villes de France. Mais il est vrai que l'institution n'a vu le jour essentiellement qu'à Paris, puisque deux dépôts ont été construits. Il s'agit de cette construction-là, la maison de Nanterre, et il s'agit de ce qui est devenu l'hôpital Saint-Lazare. La maison de Nanterre avait pour vocation l'accueil des sans-abri, alors que Saint-Lazare avait davantage la vocation d'accueil des prostituées.
Nous venons d'entendre un extrait d'un épisode des Nuits magnétiques de France Culture de 1991, consacré à la maison de Nanterre, dans laquelle la directrice de l'époque reconstitue l'histoire des bâtiments de ce gigantesque ensemble. Un hôpital, écrivez-vous, Virginie Barotto, sans odeur de bétadine ni éther, conçu pour protéger la société des patients qu'on y reçoit. Un lieu assez terrible, en fait, quand on y pense.
Oui, assez terrible. C'est un lieu de relégation, en fait, effectivement, où on isolait ceux qui, au départ, alors c'était une prison au départ, donc ceux qui allaient contre la loi, et puis effectivement les mendiants, ceux qui ne voulaient pas travailler. Enfin, il fallait protéger effectivement la société, la bonne société morale. Donc le travail était important. Donc les errants, vagabonds, donc mendiants allaient dans ce dépôt de mendicité qui a perduré. Alors c'est marrant, c'est 91 l'archive, ça a perduré je crois jusqu'en 94 le délit de mendicité. Donc c'est très tard, c'est très tardif, et je crois que c'est 81 l'arrêt du dépôt de mendicité à Nanterre, ça s'est arrêté avant.
Donc dépôt de mendicité, ça veut bien dire c'est là qu'on dépose, un peu comme si c'était un dépotoir, comme on dirait, comme ça, les mendiants dont on ne veut pas en ville. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? C'est tout l'objet de la visite d'ailleurs, hein. Ouais. On suit l'enquête que vous avez menée sur aussi la façon dont ces mendiants étaient traités à l'intérieur de cette institution.
Alors au départ ils travaillaient en fait, parce qu'effectivement la maison était censée fonctionner en autonomie. Donc ils travaillaient, ils ont un costume en fait là-bas quand ils arrivent. On leur enlève leur habit de ville et on les douche, et puis on leur donne l'habit de la maison qui est un, et ça a perduré encore une fois jusqu'à 94. Enfin, on leur donnait cet habit qui était un espèce d'habit comme les sculpteurs en fait me disaient d'ailleurs Francis. C'est effectivement une espèce de grande chasuble blanche avec un pantalon blanc qu'ils cousaient eux-mêmes en fait. Dans de la toile, donc ils travaillaient en fait, ils cousaient l'habit, ils s'occupaient d'un jardin, de la cuisine, il y avait une boulangerie, il y avait la laverie, la buanderie. Donc quand ils arrivaient au dépôt de mendicité, en fait ils étaient ce qu'on appelle auxiliaires, et on leur donnait un poste en fait dans la maison, un travail. Voilà, en échange ils avaient le logis, dormaient dans des dortoirs, et puis en cellule, puis ensuite dans des dortoirs, et puis la nourriture, et puis la prise en main de l'hygiène également.
Donc vous êtes conduite dans cette visite par Madame Boll, la chargée de la culture, puisqu'il y a aujourd'hui un volet culturel à cet immense ensemble. Et cette Madame Boll, à un moment, vous dit, puisque vous parliez justement des costumes, enfin des traces un peu de ce passé, elle vous dit « Ah, mais vous devriez chercher sur le bon coin, on trouve parfois des trucs incroyables ». Ça veut dire que c'est assez... Sa relation elle-même à cette institution est aussi assez... étrange, puisqu'elle elle-même a à la fois conscience de ce qu'elle était, mais en même temps peut-être ne prend pas assez au sérieux l'aspect extrêmement violent de cette institution.
Oui, tout à fait. Alors il faut dire aussi cette attachée culturelle. Quand j'ai fait la visite, alors le personnage est un peu là, il y a un peu de fiction.
Hein. Oui.
J'en ai fait un personnage aussi. Enfin, mais avec sa stagiaire, voilà. Mais il est vrai que elle connaissait très peu en fait l'histoire du lieu, ce qui était assez étonnant pour moi, et notamment tout ce pan-là du lieu de la prison, enfin au dépôt de mendicité, je crois que même les costumes c'était pas très sérieux en fait pour elle, et même le lieu dans lequel il y avait notamment il y a un théâtre en fait dans ce lieu, il y a une morgue, un théâtre, il y a un cimetière attenant au lieu également.
On va y venir, ça fait partie voilà, de la visite justement.
De la visite et le théâtre, elle n'y croyait pas par exemple, elle me disait non, il y a pas de théâtre, mais je savais qu'il y avait un théâtre. J'avais vu des photos, et puis Francis m'avait raconté qu'il avait vu lui-même des spectacles dimanche, il y avait des spectacles de magie dans ce, il y avait des mariages également, enfin Donc voilà, elle connaissait pas très très bien le lieu non plus. Donc je pense qu'elle avait pas tellement envie non plus de qu'on parle de voilà, de parler de ça, de ramener cette chose, cette histoire là.
Et Virginie Barreto, est-ce qu'immédiatement vous vous êtes dit là non, là il y a un sujet non seulement d'enquête, j'ai envie d'en savoir plus, mais j'ai envie d'écrire sur ce lieu.
Alors, je crois qu'en fait l'écriture faisait enquête en fait, je crois pour moi j'aurais jamais fait une enquête comme ça juste pour moi pour en savoir plus sur la maison de Nanterre. Je pense que c'était vraiment lié à l'écriture. Je pensais aussi ma façon de fonctionner, c'est-à-dire que j'avais besoin d'aller fouiller plus loin dans cette obsession aussi, cet attachement à cette histoire, et l'écriture m'y emmenait, m'y guidait.
Peut-être parce que justement, comme vous dites, la vie de Francis est une drôle d'affaire, une perte de repères, une perte de clés. Comme si justement, il fallait que le texte suive un peu ces méandres-là.
Oui, il y a effectivement un côté labyrinthique dans le lieu déjà, et dans le rapport que j'avais à cette histoire-là, j'avais l'impression parfois d'être dans un labyrinthe, de devoir chercher effectivement une clé à cette histoire. Mais que j'ai sans doute pas trouvé d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tous les cas, effectivement, j'étais vraiment dans j'avais l'impression d'être dans un labyrinthe en fait. Mais tout comme je raconte aussi dans ce lieu qui est donc gigantesque, je m'y perdais, je n'arrivais jamais à bien comprendre les plans, à bien comprendre où j'étais quand j'y allais, enfin, j'arrivais pas à faire le lien entre les plans et le réel, enfin, tout était très très compliqué en fait.
Parce que justement, vous avez dû sans doute y retourner plusieurs fois, alors que là, on a une visite, mais dans la réalité, dans la recherche, en tout cas, vous êtes souvent retourné, on imagine, à la maison de Nanterre.
Oui, j'y suis pas souvent retourné, mais j'y suis retourné un peu seul. Après, je n'osais pas en fait aller dans des endroits un peu interdits parce que le lieu est en très très mauvais état. Là, il va être réhabilité en tiers lieu. En fait, ils veulent en faire un immense tiers lieu en gardant l'hôpital, le SAMU social, etc. Mais donc, lors de mes visites, en fait, c'était quand même en assez mauvais état. Il y avait des endroits fermés en fait dans lesquels on n'avait pas le droit d'entrer. Donc, j'ai parfois essayé, mais c'était un peu c'était un petit peu compliqué.
Non, mais ce qui est terrible, c'est que même les employés, par exemple, ne savent pas exactement la taille. Ça, c'est aussi assez incroyable. C'est tellement grand qu'on ne sait plus si c'est combien d'hectares exactement, 20, 30, 5, 10, combien il y a d'hectares de jardin, on ne sait plus trop. Ouais. Ces bâtiments, qu'est-ce que c'était? On ne sait pas, ils sont immenses, ils sont là, ils tombent en ruine. On ne sait pas, on ne sait plus. Comme si c'était, oui, une partie de la ville un peu rongée, mangée par l'oubli aussi.
Oui.
Comme tous ces gens étaient relégués, finalement, dans la ville, mais en dehors de la ville.
Et c'est en dehors de la ville. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un lieu qui, lors de la construction, personne n'en voulait de ce lieu. Et donc, ça a été vraiment mis à la marge, en fait. C'était mis entre Nanterre et Colombes, mais vraiment dans un endroit. Alors, je sais plus comment. Dans les journaux, c'était un endroit maudit, enfin, dans des marécages. Personne n'en voulait, en fait. Donc, fallait le mettre loin des habitations pour surtout ne gêner personne. Et puis, effectivement, c'est un endroit qui, à la construction, qui faisait peur aux habitants aussi.
Et même Nanterre, à l'époque, vous nous racontez que c'est surtout des champs, en fait. C'est pas du tout urbanisé au moment où on construit cette maison de Nanterre, ce dépôt de mendicité, il y a extrêmement peu d'habitants.
Alors il y a quand même le petit centre, il y a un centre quand même qui est déjà là, mais là effectivement, là où c'est construit, ce sont des bois, des marécages, il y a très peu d'habitations.
Alors la plupart des bâtiments de cette maison sont vides aujourd'hui, mais néanmoins, il y a quand même encore une activité hospitalière. Et c'est ça aussi qui rend aussi un hôpital de jour, si j'ai bien compris, parce que vous rentrez pas trop dans les détails.
Ouais.
Et c'est ça qui rend aussi le bâtiment troublant, c'est-à-dire qu'il n'a pas cessé d'avoir une fonction, même si c'est plus la même.
Oui, ça a sans cesse en fait... changé effectivement comme si c'était un contenant et à l'intérieur ça avait effectivement beaucoup bougé. Mais pour revenir sur ce que vous disiez juste avant, c'est marrant parce qu'effectivement il y a cette espèce d'oubli et puis d'histoire très lourde, très très dense aussi parce qu'il s'y est passé beaucoup de choses. Donc je me suis un peu aussi noyée dedans et quand j'allais sur place, je me sentais un peu envahie, prise par toute cette histoire-là, parce qu'on a l'impression qu'elle est encore présente, en fait, bizarrement. Alors c'est bizarre, c'est effectivement, il y a un oubli, les employés l'oublient, mais on voit des vieux bâtiments, on voit les anciennes prisons, on voit des, comme des ruines, des, plein de traces, en fait, du passé. C'est ce qui est très troublant. J'avais l'impression, moi, je le dis dans le livre, mais j'ai l'impression de voir des fantômes. Enfin, j'ai l'impression que les différents temps, en fait, cohabitaient ou étaient superposés, en fait. Donc c'est aussi pour ça que je m'y perdais un peu.
Et vous parlez de fantômes, vous faites référence aussi à Maupassant et au hors-là, justement ce mélange entre hallucination, au-delà, et qui correspond bien au lieu, justement.
Oui, bah c'est aussi l'époque. À l'époque du hors-là, c'est le début, en fait, du dépôt de mendicité et du délit de mendicité. Maupassant avait écrit d'ailleurs une nouvelle à ce propos. Et puis
1887, dites-vous, si je me trompe.
Ouais, pas. Exactement. Ouais. Et par ailleurs, sur ces fantômes-là, et le titre aussi, enfin, vient de là, c'est que Francis, le personnage, en fait, est aussi visité par un ancêtre. Il y a aussi cette manifestation d'un ancêtre qui vient demander pardon et qui aurait dû, lui, en fait, faire de la prison. On va l'apprendre. Enfin, il y a cette qui était un secret de famille, en fait, que lui va faire remonter dans la famille et qui va lui être révélé. Et effectivement, donc il y a aussi ce fantôme là qui apparaît dans le livre, au milieu du livre.
Ce qui est très troublant, c'est le rapport entre pauvreté, mendicité et psychiatrie aussi dans cette maison de Nanterre et dans la visite.
Oui. Alors effectivement, au début, bah là, d'ailleurs, il y a toujours un hôpital psychiatrique et le SAMU social toujours très proche. Mais dans la relégation, effectivement, c'est le grand renfermement de Foucault. On enferme, enfin, les fous, les marginaux, les mendiants. Enfin, voilà.
Pourtant, comme dit Francis, pauvreté n'est pas vice.
Non. Non.
J'ai adoré cette phrase, ce dicton.
C'est un dicton. Oui, il le reprend, mais parce qu'en fait, en plus pour lui, il explique aussi que autrefois, on acceptait en fait les mendiants. On avait une assiette toujours au dîner pour celui qui viendrait manger, qu'on pourrait accueillir, etc. Et donc pour lui, c'est pas, ça ne va pas à l'encontre de la société en tous les cas. Ce n'est pas en effet un vice, un péché.
Mais alors, ce qui est fou, c'est son rapport très précis à l'histoire et sa passion pour la réalité des faits, et notamment pour l'histoire de cette maison. C'est comme si, en l'arpentant avec vous, il sait bien plus de choses que tous les historiens de la maison de Nanterre. Et il se souvient, mais aussi, on se demande presque comment il a appris tout cela.
Oui. Alors, il a dû compulser beaucoup de documentation et d'infos. En fait, il est hypermnésique. Donc, il retient tout. Et c'est assez compliqué aussi pour lui. Francis, il a un syndrome du spectre de l'autisme. Donc, son cerveau va très vite. Et puis, il est hypermnésique, en effet. Donc, il sait énormément de choses sur la maison de Nanterre. Il y a tout ce qu'il a lu. Tout ce qu'il a appris, il a sans doute vu tous les documentaires qui existaient dessus, lu tous les livres, et puis il a son histoire à lui avec cette maison, son rapport à lui, à cette maison.
Donc si le dépôt de mendicité est fait pour accueillir, entre guillemets, les mendiants dont on ne veut plus dans les rues, comment est-ce qu'on en sort, en fait? À quel moment est-ce qu'on sort d'un dépôt de mendicité? Puisque bon, on est enfermé, en quelque sorte, à l'intérieur, un peu comme si c'était une prison, mais comment est-ce qu'on peut en sortir?
Ah, alors, à l'ouverture, fin 19e, les mendiants donc restaient un mois en prison. Ensuite, ils étaient au dépôt de mendicité, ils travaillaient un mois, et quand ils sortaient, ils avaient le droit à un louis d'or. Voilà, ça se passait comme ça. Ça a changé. Quand Francis, lui, il y va, en fait, c'est les bleus, les flics, donc qui passent en Paris avec leur camionnette bleue, donc on les appelait les bleus, qui passaient dans Paris, ils récupèrent en fait les clochards. On disait à l'époque, c'était pas encore les SDF, ils récupèrent les clochards. Lui, il se faisait passer pour un clochard, Francis, alors qu'il avait déjà un travail, mais il se faisait passer pour un clochard. Ils sont récupérés, ils arrivent à Nanterre, ils sont déshabillés, lavés, ils mangent, ils dorment là-bas, et le lendemain, on les ramène à Paris.
Cette maison de Nanterre, c'est une ville dans la ville. Et on l'a évoqué tout à l'heure, et il y a notamment un cimetière, et donc voilà, c'est la vie et la mort aussi de gens qui sont morts et enterrés là.
Oui, il y a une morgue à côté de l'infirmerie, tout au fond, et effectivement, il y a un cimetière qui ne touche plus maintenant, qui n'est plus attenant à la, à la, à la maison de Nanterre. Il faut maintenant, alors d'ailleurs c'est assez marrant parce que entre-temps les immeubles ont poussé, etc. Donc il faut passer par des immeubles sous des échangeurs, etc. Et il y a ce cimetière qui est un espèce de no man's land fermé, complètement fermé. Je pense que personne n'y va jamais. Et donc j'y suis allée pour le coup deux fois. Et c'est un peu compliqué d'y aller parce qu'il faut demander les clés, etc. Donc la première fois je suis passée par-dessus le portail. Et en fait c'est un drôle d'endroit parce que c'est sur une espèce de colline, sur une butte, au milieu des immeubles. Et puis c'est un endroit très calme en fait, avec des arbres. Et puis il y a plein de croix, mais qui sont anonymes en fait. Qui sont anonymes et sur lesquelles il y a juste, parfois, pas toujours, mais des numéros. En fait c'était leur numéro d'immatriculation. Ils arrivaient, ils avaient un numéro de matricule quand ils arrivaient au dépôt de Nanterre. Donc il y a à la fois les anciens prisonniers et les certains clochards.
Virginie Barreto, on a l'impression que tout ça, ou en tout cas c'est une hypothèse presque, pourrait sortir de la tête de Francis, un peu comme il accumule autour de lui des objets qui l'empêchent finalement de vivre, presque. Tous ces souvenirs, ces récits sont un peu à l'image de son impossibilité de se débarrasser de choses qui l'encombrent.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour lui, en fait, le fait de pouvoir dormir en cellule, c'est d'y trouver un répit. C'est effectivement, il dit en fait, dans une cellule, il y a juste un lit et puis des toilettes et c'est tout. Il n'y a pas d'autres sollicitations pour lui. C'est plus simple en fait. C'est beaucoup plus simple. Ça veut dire que le cerveau peut un peu débrancher. Sinon c'est épuisant en fait pour lui, il l'explique très bien, enfin j'en parle aussi dans le livre, je le fais parler en fait, j'ai repris ces mots, mais effectivement pour lui en fait le moindre choix est très compliqué, tout est compliqué, des courses, des choix, enfin les sollicitations font démarrer le cerveau très vite et puis tout en même temps, donc il s'y perd et il s'épuise en fait.
Virginie Barreto, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de métaphore de la ville, justement là-dedans, du fonctionnement urbain. Comment est-ce qu'on exclut, un peu dans une gigantesque poubelle en dehors, en banlieue, les gens qu'on ne veut pas voir, mais que bon, finalement, on est obligé de ramener quand même, vous venez de le dire, le lendemain matin, ou comme Francis qui cherche aussi à se débarrasser depuis sa banlieue en se déplaçant, lui, à d'autres endroits, des choses qu'il ne veut pas voir. Est-ce que c'est pas un peu le fonctionnement même de notre urbanité un peu malade, l'exclusion constante de... Ou est-ce que vous avez eu cette sensation-là après avoir terminé le texte ?
Oui.
C'est une histoire d'exclusion en réalité.
Oui, il y a une histoire d'exclusion, d'exclusion et puis de mettre aussi dans des endroits précis pour effectivement maintenir un certain ordre social, un certain ordre moral, une certaine... une pensée un peu, enfin voilà, la même. C'est vrai que lui, enfin c'est compliqué pour lui de s'adapter en fait à ce monde-là. Donc il préfère aller là-bas. C'est lui-même, il s'exclut en fait en allant là-bas. Mais il s'y sent mieux.
Et Virginie Barreto, quand on lit le texte, on peut pas s'empêcher de penser à votre rapport au théâtre et de se dire, mais finalement cette déambulation, ça pourrait faire aussi quelque chose de très théâtral. En même temps, cette visite, est-ce que je suis sûr que vous y avez pensé, bien sûr.
Oui. Il y a une forme théâtrale effectivement à partir de la parole en fait de Francis qui est issue du texte La Visite et qui s'appelle Bloc 45 Témoignages. Donc effectivement, moi j'ai travaillé à une forme théâtrale qui est jouée par un comédien, Olivier Galinou, à Bordeaux. Voilà, donc ça a été créé en effet.
Toi t'aimes pas le malheur, t'aimes bien quand ça arrive à l'autre. C'est quand tu t'y attends pas que la police arrive à l'aube. Elle veut que je l'appelle, je vais faire au moins ça pour elle. Je suis pensif sous le tunnel, j'écoute du Francis Cabrel. Avec toi je sais plus comment faire, t'es bizarre, t'es plein de mais. Tu vas pas me la faire, il t'en reste un peu sur le nez. La mer, le bruit des vagues, le soleil, l'accent de ma ville. Le jeune père des proches, tu le verras, le regard vide. Chandor et platine, pas de Gucci, non pas de Dolce. Tu me croiseras capuché ou avec la chapka dans le golf. Faut pas laisser maman seule, faut que tu la consoles. J'oublie tout quand je fume, que je joue à la console. J'ai seulement dit ce que je pense, alors s'il vous plaît, m'en voulez. Y'a le soleil, la manana, m'entend partout. Pas de vite avec Rihanna, mais grosse casse tout. Y'a le soleil, la manana, m'entend partout. Pas de vite avec Rihanna, mais grosse casse tout. C'est la vie que je mène. Il faut des love, ouais, les petits veulent des love. C'est la vie que je mène. C'est la jeune fille love, ouais.
Esther Teilhard, nous venons d'entendre Jules, célèbre Marseillais, dans cette chanson de 2018 qui fait une brève apparition dans votre roman Carne. Esther Teilhard, Carne est un va-et-vient fictif justement entre Paris et Marseille. On a l'impression que Jules devrait faire partie de la VO du livre et en fait il y est, il fait une apparition. C'est la vie que je mène. C'est assez précisément une phrase que pourrait écrire la narratrice de Carne au milieu du boucan marseillais.
Tout à fait, Mathias, c'est vrai. D'autant plus que ce que j'aime beaucoup, notamment dans Jules avec la chapka, c'est le côté obsessionnel, la pensée qui revient, c'est la vie que je mène, c'est la vie que je mène. Et dans le roman, dans Carne, il y a énormément de phrases qui reviennent comme un refrain entêtant, comme un espèce de chien qui reviendrait toujours se frotter à soi, un peu collant et qu'on essaierait d'écarter.
On est aussi entre Paris et Marseille, c'est-à-dire que on a cette vision aussi très urbaine, alors très d'une façon très différente de celle de la visite de Virginie Barreto, mais néanmoins, c'est la ville qui justement rend possible tous ces contacts, c'est la ville, la banlieue aussi, Sergi, où la narratrice fait ses études aux Beaux-Arts. Un basculement comme ça entre deux façons de voir la ville qui sont aussi assez différentes.
Oui, la ville est traitée comme un personnage à part entière. Il y a Marseille, il y a Paris, il y a Cergy. Et elle est tellement vaste, cette ville, qu'il faut bien commencer par l'aborder d'une manière ou d'une autre. Donc elle est décortiquée, elle est déshabillée petit à petit et par segments.
Alors Carne, ça commence... quand la narratrice nous raconte qu'elle fait ses études justement à Cergy Pontoise au Beaux-Arts et nous décrit un peu cet environnement. Et c'est assez surprenant parce que c'est à la fois, ça ressemble justement à ces lieux un peu, pas un tiers lieu, mais en tout cas un lieu un peu d'exclusion où chacun se fabrique son espace, un peu en autonomie. Il y a des ateliers, il y a des professeurs, mais qui finalement ne professent pas au sens traditionnel du terme, cherchent plutôt à guider apparemment des étudiants. Et on a l'impression d'une immense liberté contrainte comme ça dans un morceau d'espace en banlieue.
Oui, une immense liberté, et en même temps, cet espace est assez fermé sur lui. C'est décrit comme une sorte de piscine désaffectée, très grise. Et les étudiants, les professeurs ne se parlent pas beaucoup. Ils sont un petit peu impénétrables les uns aux autres. Il y a beaucoup, finalement, de personnages assez seuls dans leur atelier, dans leur petit bout de mur, en errance avec eux-mêmes.
Oui, Esther Teilhard, on a envie évidemment de poser la question de comment est-ce que vous avez travaillé, est-ce que vous connaissez justement vous-même très bien ce milieu des étudiants d'art, et est-ce qu'il y a une partie de vous dans ce texte?
Il y a évidemment une partie de moi, même s'il y a aussi beaucoup de bricolage avec le réel. Mais j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Cergy. J'ai commencé par la peinture. Et c'est d'ailleurs parce que j'étais extrêmement mauvaise j'étais une très mauvaise peintre que j'ai commencé à écrire. J'avais envie de faire des portraits. Moi, j'adorais l'art de la caricature, mais je n'arrivais pas du tout à dessiner. Donc, j'ai commencé à écrire à défaut de pouvoir dessiner correctement.
Mais justement, là, Carne, c'est vraiment un ensemble de portraits. C'est-à-dire qu'on va avoir, bien sûr, c'est pas que ça, mais c'est aussi des personnages très forts qu'on va suivre les uns après les autres, très dessinés peut-être aussi.
Oui, très dessinés, très marqués. Chaque personne a son identité propre. Il y a plus d'identité que de personnages en réalité. Et c'est vrai que je me suis inspirée de ce goût particulier pour la caricature que j'affectionne, et aussi pour les fresques. Moi, j'adore le peintre Ensor. J'adore les fresques belges d'Ensor que je trouve sublimes et très énigmatiques. Et j'ai essayé de traiter les personnages comme une immense fresque, comme un carnaval.
Un carnaval un peu sombre et un peu violent quand même. Enfin, ils sont Carne, déjà le titre en soi annonce un peu la violence et une certaine forme de le cru que peut avoir le texte. Est-ce que la voix de la narratrice vous est apparue comme ça un jour, justement en tentant des portraits, des dessins, des caricatures par écrit?
J'avais envie d'une narratrice sans identité. Donc on ne sait rien de la narratrice, on ne sait pas son...
On va voir quand même qu'on sait quelque chose, mais...
Oui, mais on ne sait pas exactement ce qu'elle pense, on ne sait pas exactement à quoi elle ressemble. Elle est sans cesse malmenée par les personnages et les décors dans lesquels elle se trouve. En revanche, elle a quelque chose qui la définit, c'est la langue. Et la langue... Si le roman peut paraître un petit peu obscène parce que la langue est crue, elle est trash. En fait, oui, c'est le. Je trouve que c'est faussement. Enfin, le roman est faussement obscène et c'est la langue dans Carne qui est frivole, infiniment plus frivole que les corps qui sont eux assez pudiques finalement, je pense.
Oui, mais est-ce qu'il y a autre chose que des mots dans un roman?
Il y a autre chose que des mots. Il y a des couleurs justement. On parlait de peinture. Il y a des odeurs. Il y a des textures. Moi, je voulais qu'il y ait une couleur prédominante, qui est le jaune. D'ailleurs, la couverture du livre, une sorte de jaune cheddar, jaune cagole, jaune auto-bronzant ou jaune rayon pisse. Il y a évidemment pas que des mots, c'est certain.
Alors, ces cartes, justement, paraissent aux éditions Pau Vert, peut-être les auditeurs les plus âgés comme moi associent, bien sûr, aussi à une certaine forme d'érotisme. Est-ce que vous y pensiez au moment de proposer votre texte à un éditeur? Vous avez découvert ça par la suite? Non, ça faisait partie du projet.
Je suis ravie d'être aux éditions Pau Vert, qui sont tout à fait, je trouve... adéquate au texte. Moi, c'est une sorte de récit un peu, oui, un carnassier un peu vengeur, et les éditions Pau Vert sont connues pour leur amour pour la loi du talion, dent pour dent, j'ai envie de dire.
Un peu pareil. Un peu vengeur, qu'est-ce que vous voulez dire par...
Un peu vengeur, c'est un texte qui est sans concession, qui est assez brutal, qui traite les personnages et les lieux sous une lumière assez crue, assez vive, ce qui peut parfois configurer, oui, à une forme de violence. Moi, je pense qu'en réalité, derrière cette manière de traiter brutalement les scènes et les personnages, il y a finalement une forme de tendresse. Mais les éditions Pau Vert sont connues pour leur côté un petit peu rentre-dedans, j'ai envie de dire.
Alors il y a un côté rentre-dedans dans Carne, certains même, et une véritable violence en tout cas dans la langue qui est, vous l'avez dit, vous êtes crue ou trash, mais c'est aussi parce que ça parle depuis un point de vue féminin de sexe, tout simplement. Je pense qu'il y a aussi une façon de dire, voilà, on n'a pas l'habitude de voir les choses à cette hauteur-là depuis un regard féminin jeune d'une jeune génération qui voit tout ou presque à travers le prisme de la sexualité.
Mmh. Oui, la narratrice a grandi à Marseille, qui est une ville infiniment sexuelle, charnelle. Elle a été aussi habitée par le métier de sa mère, qui est procureur de la République et qui laissait traîner dans le salon des dossiers de viol en réunion. Donc la sexualité et la sexualité par le rapport de force fait partie de son éducation. Mais en fait, le roman traite de sexe et de désir complètement extrait du plaisir. C'est pour ça que ça en fait un texte assez brutal, et c'est aussi pour ça, je pense, que c'est un récit qui est jeune, parce que la maturité, la jouissance, le plaisir, l'accomplissement personnel n'est pas encore là. On est sur une espèce de rapport très poreux et très, très guerrier au monde.
Oui, c'est vrai qu'elle cherche, enfin, elle est toujours confrontée un peu à des décisions qui vont la transformer. C'est un peu quand même, c'est pas un roman d'adolescence parce que c'est une jeune adulte, mais c'est quand même aussi un roman de transformation, de ce passage justement. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire étudier? Ben dans ce roman-là, ça veut dire aussi se transformer aussi sur le plan sexuel.
Oui, tout à fait. La narratrice. Commence à rentrer, en fait elle rentre dans les personnages et dans les lieux par la sexualité. Elle aborde toujours une ville ou un milieu par le prisme de la sexualité dans son langage évidemment, mais dans sa manière de traiter les gens, de les regarder, de les observer. Par exemple, on parlait de la caricature tout à l'heure, mais elle va rencontrer une jeune femme, Estia, aux Beaux-Arts, avec qui elle va nouer une espèce d'amitié tempétueuse et étrange, pleine de désirs. Et la première chose qui la marque quand elle rencontre Hestia, c'est qu'elle trouve qu'elle a un nez en forme de bite et des yeux en forme de sein. C'est sa manière de voir les choses. Tout est sexualisé, tout est sexuel dans son monde.
Vous parlez d'Hestia, on parlera peut-être de pas de tous des personnages, mais en tout cas de beaucoup d'entre eux. Hestia, elle est justement, elle a un côté extrêmement dur en même temps, malheureux. C'est une forme d'incarnation aussi un peu de la douleur. Elle dit par exemple, l'époque n'est pas à l'enchantement. J'adore cette phrase. Les choses ne sont plus enchantées. C'est-à-dire qu'elle a vraiment cette conscience. Et aussi beaucoup de personnages de Karn sont dans des moments assez désabusés de leur existence. Bien qu'ils soient tous très jeunes en réalité.
Oui, ils sont jeunes, ils sont désabusés parce qu'ils sont très seuls en fait. Il y a beaucoup de solitude, c'est un roman sur la solitude. Et Hestia a en effet ce côté un peu inquiétant. Hein. C'est vraiment le prototype de la femme inquiétante. C'est-à-dire qu'elle a cette apparence de porn star slave. Donc elle est toute en blondeur, toute en rondeur. Elle est incroyablement... sexuelle et en même temps elle a ce côté très très dur et en fait très masculin. C'est une femme qui regarde les femmes comme un mec qui ne fait pas de concessions, qui a un côté très dur et très viril dans ce que ça peut avoir de laid.
Elle a aussi l'impression de virevolter entre les prédateurs. C'est-à-dire aussi comme si le monde, de toute façon, était dangereux, habité par des prédateurs, on le sait. Et donc, il y a plusieurs façons de réagir à cela. L'une, c'est de se laisser manger, ou en tout cas de jouer avec la possibilité de la prédation. Ou l'autre, c'est au contraire de développer une certaine forme de dureté.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de reptilien dans le rapport des personnages les uns aux autres et d'Hestia. Et en même temps, les choses ne sont pas établies de manière aussi claire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ambiguïté aussi dans certains personnages féminins, notamment dans celui de la narratrice, qui va subir énormément de violence et qui en même temps va aller vers la violence, parfois va y revenir avec une forme presque de masochisme. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait, c'est le trouble autour du personnage qui est dans une profonde passivité. La narratrice est très passive. En réalité, elle se prend la violence du monde dans la tête, sans cesse, mais elle y retourne. Enfin, quand elle rencontre le personnage masculin qui est une caricature de l'homme alpha passionné par bataille et qui va évidemment la martyriser, elle retourne chez lui, elle y reva, alors qu'elle sait que ça va la faire souffrir. Et moi, j'adore ces personnages qui ne savent pas exactement où est-ce qu'ils vont et pourquoi ils retournent toujours à une forme de rapport brutal aux choses et aux êtres.
Un des personnages principaux assez fascinants, c'est Médée, qui est... alors les noms, évidemment, les prénoms sont extrêmement importants, mais c'est une femme trans et qui est un peu la meilleure amie, en tout cas une des proches amies de la narratrice. Et qui est aussi une forme de miroir déformant, un peu des possibilités, justement, de l'identité sexuelle.
Oui, tout à fait. Médée porte beaucoup de casquettes sur son dos. Elle est assez étonnante. Et la narratrice, quand elle arrive au Beaux-Arts, elle est fascinée par Médée parce que Médée marche dans la rue comme une déesse. Elle vit parce qu'elle est aussi dans une situation extrêmement précaire, parce qu'elle est trans, parce qu'elle est racisée. Elle vit dans une forme d'urgence, comme si tout était une déclaration ou un dilemme. Elle a ce rapport très vivant à la vie qui fascine la narratrice, qui est un petit peu éteinte au final.
Mais qui passe aussi par l'art, c'est-à-dire que là, les études d'art, en ce qu'elles sont aussi des pas uniquement des études, mais des transformations de soi. En tout cas, on a l'impression que les professeurs sont là, c'est un peu pour observer les étudiants. Et, par exemple, Médée, elle adore Paul Preciado. Pour elle, c'est le messie, dites-vous. Et on sent que même ça,
l'art qu'elle peut produire, en tout cas vers lequel elle a envie de tendre, passe aussi par là, par cette espèce de transformation de soi vers quelque chose que les autres observent et se contentent d'observer.
Bien sûr, parce que l'identité a la première place en fait en école d'art et que avant de savoir quelle peinture on va faire, quelle nuance de rouge on va prendre, on va choisir, c'est avant tout comment on se revendique, qu'est-ce qu'on est, quel est notre pronom, comment on apparaît dans cette école, comment on se présente aux autres, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on défend. C'est très politisé. La narratrice, elle découvre ça avec des grands yeux un petit peu de godiche qui vient de Marseille et qui ne connaissait que les cagoles marseillaises orange et les muristes, les hommes accoudés au mur qui ne sont là que pour siffler les femmes.
Et cette narratrice, justement, alors, c'est pas un problème, mais c'est qu'elle est aussi, elle découvre qu'elle a un sexe et que on a beau faire, tu peux cacher ton sexe sous un baggy, le brandir comme une banderole sale, le castrer, transitionner, le rendre inoffensif, il est là et il te colle au cul comme une ville insistante qui ne te laisse pas partir.
Oui.
Elle est vraiment conditionnée par sa condition féminine. En fait, c'est impossibilité d'être autre chose que ça. Une
oui.
sexualité à pattes.
Oui, elle est enfermée dans son personnage, dans sa propre caricature. Elle sait pas vraiment quoi faire.
Non, mais
de
c'est
ça.
Aussi le regard de ceux qui l'entourent qui l'a contraignée à ça. Ou c'est quelque chose qui vient d'elle.
Je pense que c'est un personnage qui a un rapport assez étrange aux autres et qui se construit en effet en fonction des autres personnes qu'elle va croiser, mais qui arrive dans la grande ville, qui monte à Paris comme on dit, et qui ne sait pas trop quoi faire de ce qu'elle est. Elle se dit qu'elle est une jeune femme, qu'elle doit donc aller trouver un vieux avec qui elle va avoir une aventure, et que c'est ce qui lui reste à faire. Mais en réalité, elle est très empêchée parfois par son corps, et souvent dans les scènes sexuelles, elle a l'impression de se voir sous une lumière très vive, très crue, qui est en fait presque la lumière blanche de Marseille qui la décortiquerait en plein acte sexuel.
Et justement, Marseille, c'est pas Paris, même pour le sexe. Vous écrivez, Marseille pue le cul sale, les embrouilles faciles où on sort dans la rue en gueulant, le zgeg à l'air encore humide.
Eh oui, Marseille, c'est un... Marseille, on dit de Marseille, on dit souvent que Marseille est une femme, mais en fait la narratrice trouve que Marseille est un homme, un petit homme teigneux, libidineux et frustré qui passe son temps à courir dans la rue, le zgeg encore humide, et elle arrive à Paris, elle trouve que Paris finalement est Paris dans sa sexualité est beaucoup plus féminine. Elle arrive notamment dans le quartier de Belleville où elle observe la prostitution chinoise qui est omniprésente sur le boulevard de la Villette. Et elle se fait cette réflexion que la sexualité ici est beaucoup plus discrète. Elle est aussi beaucoup plus masquée parce que ces femmes font leur travail en silence. Et elle ne connaissait qu'à Marseille les prostituées de la rue de Curiole qui sont des prostituées à leur compte qui gueule et qui alpague les passants avec bagou.
Mais il y a néanmoins le désir, c'est pas la même chose que le sexe peut-être, même s'il est partout, vous écrivez, le désir est dans la rue et gratte les yeux comme du pollen d'avril. C'est une phrase absolument magnifique. Mais est-ce que ça s'oppose au sexe? C'est différent du sexe? Qu'est-ce que c'est que le désir pour la narratrice de Carme?
Elle ne sait pas exactement ce que c'est que son désir, ça c'est certain, c'est parce qu'elle est jeune aussi. Donc elle se frotte à son propre désir sans jamais vraiment parvenir à l'embrasser totalement. Le désir, dans le roman, est traité comme une forme de cancer, et ça me fait presque mal de le dire, parce que je ne pense pas que le désir soit un cancer, bien au contraire. Mais dans Carne, le désir est ce qui tourmente infiniment tous les personnages et tous les lieux.
Les femmes sont plutôt dures avec les femmes dans Carne. C'est une espèce de difficile sororité, en tout cas, assez empêchée pour ce qui est de la narratrice et des femmes qui l'entourent, qui sont extrêmement méchantes, en fait, les unes envers les autres.
Oui, les femmes sont très très rudes les unes avec les autres. Bah, ce sont de véritables carnes. Hein. Une carne n'est pas facile. Elle parle fort et elle, elle, Elle parle en vomissant et elle vomit parfois sur les autres femmes aussi. La narratrice, elle a grandi avec ce rapport assez rude des femmes les unes avec les autres, parce que à Marseille, elle était habituée à côtoyer des cagoles marseillaises qui finalement ne l'ont jamais vraiment acceptée, ne l'ont jamais vraiment tolérée. Et tous les personnages féminins dans le roman sont très très rudes les uns avec les autres et ne se laissent pas beaucoup de chance, c'est vrai.
Mais en même temps, il y a quand même la possibilité d'une forme d'amitié par moment, qui est plutôt une alliance en fait.
Oui.
Une forme d'alliance quand les intérêts vont dans le même sens. Finalement, on peut se retrouver, se joindre l'une à l'autre.
Oui, bien sûr, une alliance, une sorte de d'étrange confrérie. Il n'y a pas que de la rudesse, il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure, il y a aussi de la tendresse et de l'entraide entre ces femmes. Mais une jeune femme que vous connaissez...
Bon, la tendresse, il n'y en a pas beaucoup quand même. On peut pas... Où est-ce que vous la voyez, la tendresse ?
La tendresse, je la vois dans une forme finalement de générosité. Une forme de générosité dans la manière de... La narratrice regarde ses personnages avec sans tendresse, c'est certain, mais avec générosité, elle est avec gourmandise, je pense. Et ça, c'est important. Et avec fantaisie aussi. Et la fantaisie est une forme de tendresse, je trouve.
Esther Teilhard, ce qui est incroyable dans Karn, c'est le rythme et la puissance de cette langue qui nous emporte de page à l'autre, d'un personnage à l'autre, jusqu'au bout du texte. Et, bien sûr, c'est difficile de décrire de quelle façon est-ce qu'on écrit, mais néanmoins, cette voix, elle est apparue comment, celle de la narratrice de Karn?
Elle est apparue dans la chaleur, dans la moiteur, parce que c'est un texte qui a été écrit pendant un été particulièrement chaud à Marseille, un été qui cloue au sol, hein, parce que quand les étés sont chauds à Marseille, il y a quelque chose qui pègue, comme on dit chez moi, qui paralyse. Je pense sincèrement que c'est un récit chaud, c'est une langue chaude, et c'est amusant parce que là je m'emploie à un autre exercice qui est très différent, qui est d'écrire de manière bien plus gelée, bien plus froide.
Joli, froid et pas beau chaud, c'est ça en fait que vous venez de dire?
J'ai dit gelé, mais j'aime bien cette image de joli froid.
Justement, la beauté aussi, c'est une question passionnante dans Karn, parce que c'est toujours ce que cherche le regard, mais qu'il ne trouve pas. C'est-à-dire qu'on voit avant tout des défauts quand la narratrice se regarde ou regarde les gens autour d'elle. Ce qu'elle voit avant, ce sont des défauts auxquels elle s'attache avant de voir la beauté si elle apparaît à un moment ou à un autre.
Bien sûr, elle se met en difficulté plutôt que d'accepter d'embrasser la beauté des choses sur son passage. Elle s'accroche toujours à ce qui est un petit peu épineux, un peu moche, un peu rude, parce qu'elle a été élevée comme ça. Hein. C'est une jeune femme qui a été élevée de manière très très rude, et elle a été aussi élevée elle a grandi à Marseille, qui est une ville qui apprend à être rude, parce que quand on est une jeune femme à Marseille, qu'on grandit à Marseille, on est regardé durement toute son enfance, toute son adolescence. Donc après, forcément, quand on est lâché dans la ville, dans l'autre ville, la grande ville, on est rude, on est imprégné par cette rudesse.
Oui, par justement ce passage, ce moment que vous décrivez, où on commence à repérer, ou en tout cas les hommes commencent à repérer la sexualité dans l'adolescente qui marche, ce moment où la rue presque se transforme pour la jeune femme qui marche dans Marseille.
Bien sûr. Et il y a quelque chose de... Oui, presque qui se sniffe. C'est comme si un jour, la narratrice sort de chez elle et elle ne sait pas pourquoi ce jour-là elle est regardée, mais c'est quelque chose qui se sent, qui se palpe et qui va la suivre, qui va être ça, une forme de poisse, hein, mais qui va lui permettre d'écrire et de portrayer des carnes. En veux-tu, en voilà.
Esther Teilhard, est-ce que ça a un sens pour vous le mot provocation? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Provocation à quoi? Choquer? Est-ce que ça faisait partie un peu du projet de montrer la réalité d'une autre façon, justement, qui sont un peu choquantes ou pas?
Pas forcément la provocation, plus le trouble. L'idée de troubler, mais cher parce que...
Provoquer le trouble, quoi.
Oui, de provoquer le trouble, parce que pour revenir à la couleur, le trouble, c'est la couleur, c'est le mélange. Et j'aime bien cette idée qu'on puisse ressortir de ce roman sans vraiment savoir si on l'aime ou si on le déteste, si la narratrice est antipathique ou victime. Ouais, j'aime bien.
Alors, un des personnages importants, c'est le personnage de Noé, qui est justement... dont là, on ne sait pas très bien quel est le rapport de la narratrice envers Noé. C'est comme si deux personnes s'observaient, profitaient aussi l'une de l'autre, sans réellement rentrer en une réelle communication. On a l'impression que ce sont deux êtres qui se touchent, qui couchent ensemble, qui font plein de choses, mais qui finalement ne communiquent pas. En tout cas, il y a peu de choses qui passent de l'un à l'autre et de l'une à l'autre.
C'est vrai que la narratrice a plus de liens avec les chauffeurs, les taxis qui la ramènent ou qui l'emmènent chez Noé qu'avec avec ce personnage. En fait, le personnage de Noé est peut-être le seul personnage masculin, enfin à part les mûristes marseillais, mais le seul personnage masculin du roman. Et c'est il incarne à lui tout seul la ville, tout ce qu'elle a de désirable, parce que c'est un homme qui va exercer une forme de, enfin, qui va fasciner la narratrice, parce que il représente aussi son arrivée à Paris, il représente la culture, il représente en fait tout ce qu'elle ne connaît pas, tout ce qui lui est profondément étranger, la littérature, Bataille, les Russes, elle est fascinée par sa bibliothèque, et c'est dans la bibliothèque de Noé qu'elle va tomber sur Mireille Havé, qui va la fasciner, qui est une figure importante du roman.
Dans Carne, il y a aussi incarnation, c'est aussi un peu la chair. Est-ce que c'est aussi, et je pense que ça l'est, en tout cas, quand on le lit, on a cette impression, un roman de précisément ce qu'est la monstruosité de la chair.
La chair n'est pas à son avantage dans le roman. Elle est pourrie, hein. Une carne, c'est une viande dégueulasse, c'est une viande avariée. Il y a beaucoup de personnages, de femmes puantes, j'ai envie de dire, de femmes peu ragoûtantes dans ce qu'on peut entendre d'une femme ragoûtante. Et ça, j'y tenais beaucoup. Je voulais que les femmes puent prennent trop de place et dérangent dans ce roman. J'y tenais vraiment.
Je ne pensais pas qu'une carte pouvait être exclusivement, justement, une femme. Virginie Barreto, est-ce que vous avez ce sens de carne comme étant exclusivement...
J'ai l'impression que, effectivement, c'est pas pour moi exclusivement féminin. J'ai l'impression, c'est marrant, ça me renvoie à ce que tu disais tout à l'heure sur ce chien qui s'acharne. Pour moi, une carne, c'est effectivement quelqu'un qui ne lâche pas, en fait, aussi. C'est une viande difficile, en fait,
quelqu'un de tenace.
À manger, tenace.
Oui.
Et la carne, c'est dur, quoi.
C'est dur, voilà, c'est une chair dure.
Et en même temps, on dit souvent ma vieille carne est... Je sais pas, moi, je pense aux mamas avec qui j'ai grandi, qui étaient des vieilles carnes et qui me disaient ma petite carne, et on était entre carnes, quoi. Et les hommes n'avaient pas accès à ce monde de carnes.
Merci beaucoup, Esther Teillard. Roman Carne est paru aux éditions Pauvert. Et merci Virginie Barreto. Le récit La Visite est paru aux éditions Inculte. La conversation littéraire est réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Guillaume Ledu à la technique aujourd'hui. La préparation en est assurée par Aurélie Marsay. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure, mais d'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France et le site web de France Culture. Bonne lecture et bon week-end sur France Culture.